Avec la revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
La plus grande élection au monde a débuté il y a quelques heures, elle va durer 6 semaines et c'est bien de l'Inde dont il s'agit, Camille.
Oui, l'Inde où 900 millions d'électeurs sont convoqués aux urnes pour renouveler la Lok Sabha, la chambre du peuple, donc le parlement indien. C'est un incommensurable marathon électoral en 7 phases qui a débuté ce matin et pour s'y retrouver, c'est vrai qu'on a bien besoin du guide quasi touristique et électoral que publie India Today. Le scrutin va donc durer 6 semaines. Les résultats ne seront pas connus avant le 23 mai. Et en ce qui concerne l'affiche politique, eh bien, c'est le premier ministre sortant, Narendra Modi, et son parti nationaliste hindou, le BJP, face à Rahul Gandhi, qui mène l'opposition avec le Congrès national indien de sensibilité, disons, plus libérale. Au terme d'une campagne particulièrement agressive, d'après la BBC, les deux formations ont publié ces derniers jours leur profession de foi. Et cette journaliste d'India Today s'est chargée de comparer les programmes.
As far as both the political parties are concerned, they've targeted similar issues for the upcoming elections. It's only the ideology.
Et elle nous explique que les deux partis s'attaquent au même sujet de fond, mais avec une idéologie et une méthodologie différentes. Le BJP axe surtout son programme sur la sécurité nationale. Le Congrès se concentre, lui, sur les questions économiques et la stabilité financière de l'Inde. Alors tout cela, bien sûr, est beaucoup plus complexe. Et c'est vrai qu'en parcourant la presse indienne ce matin, il y a de quoi se noyer dans la diversité, la complexité des enjeux électoraux et territoriaux à l'échelle du géant indien. Mais il y a tout de même une thématique qui revient dans chaque journal, c'est l'ingérence dans le débat du premier ministre pakistanais Imran Khan, l'ancien champion de cricket dont India Today nous dit qu'il a frappé un coup de batte inattendu hier en faveur de Narendra Modi. Il a déclaré que, selon lui, le processus de paix entre le Pakistan et l'Inde aurait plus de chances de réussir si c'était le BJP de Narendra Modi qui remportait les élections. Alors forcément, ça semble improbable et le Deccan Herald nous le confirme, tant les deux hommes se sont opposés ces derniers mois dans le très inquiétant regain de tensions frontalières au Cachemire, la région que les deux pays ne cessent de se disputer. À la fin du mois de mars, dans une interview au Financial Times, Imran Khan accusait Narendra Modi de mener une politique de plus en plus agressive, de prendre un virage clairement nationaliste et anti-pakistanais. Mais hier, pourtant, il a appelé quasiment les Indiens à voter pour Modi. Et en fait, ça amuse la presse indienne, car au final, ça semble surtout fragiliser le leader du BJP dans son électorat. Ça ouvre un boulevard à l'opposition qui crie à la trahison nationale, qui accuse Modi d'être à la solde du Pakistan et surtout d'être hypocrite en affichant sa fermeté face à Islamabad, tout en conservant des relations amicales en coulisses avec Imran Khan. Mais plutôt qu'un double discours, le quotidien de centre-gauche The Hindu préfère voir dans la position du Pakistanais une réminiscence de son glorieux passé sportif. Quand Imran Khan dominait le monde du cricket, il était connu pour son inoxydable confiance en soi, le genre à donner le meilleur de lui-même face à un adversaire en théorie beaucoup plus fort. The Hindu note que ça ne lui a jamais tant réussi que lors des matchs fratricides et légendaires entre l'Inde et le Pakistan.
Et un match qui joue encore les prolongations, c'est le Brexit avec les 27 qui se sont mis d'accord hier soir sur un nouveau délai au 31 octobre.
Et ce que l'on retient ce matin, ce que l'on en retient dans la presse européenne, au-delà de cette énième date butoir et de l'incertitude toujours aussi complète sur ce qui peut encore se passer d'ici là, eh bien c'est le fait qu'hier soir, à Bruxelles, Emmanuel Macron a passablement énervé tout le monde autour de la table européenne. C'est The Guardian qui est le premier à l'écrire. Macron aurait même fait enrager les autres leaders de l'UE en s'opposant jusqu'au bout et contre tous, sauf la Belgique, à une extension plus longue de la date de sortie du Royaume-Uni. La France et son président sont parus isolé, fragilisé, et le fait qu'Emmanuel Macron ait intrigué pour être le dernier à prendre la parole à l'issue du dîner et des débats a achevé d'énerver les convives. Jean-Claude Juncker était furieux, nous révèle le Daily Express, quand il a lancé que l'Europe n'est pas là pour régler les problèmes de politique franco-française d'Emmanuel Macron. Car c'est bien cela que tout le monde sous-entend, que Macron surjoue la posture de l'intransigeant, du garant des intérêts européens contre les populistes de tout poil. Ça tombe bien, c'est le cœur de la campagne LREM pour les élections européennes dont la campagne officielle débute lundi prochain. Alors du coup, l'Allemand Die Welt ne peut que constater que pour soigner son image en France, Emmanuel Macron a fait voler en éclats l'unité européenne, non pas seulement sur le Brexit, mais que c'est l'arrogance d'Emmanuel Macron qui est en cause. Même constat de la part des Américains de Bloomberg, pour qui, en voulant jouer au gros dur, le président français s'est finalement mis tout le monde à dos.
Mais à bien y regarder, Camille, il y a un autre dossier sur lequel laquelle la France et Emmanuel Macron étaient seuls contre tous hier soir à Bruxelles.
Et oui, et ce dossier, c'est la Libye, où les combats font rage à nouveau depuis une semaine. Aux portes de Tripoli, les troupes du général Haftar, le chef de guerre de l'Est libyen, ont lancé l'assaut sur la capitale tenue par l'armée du Premier ministre Al-Sarraj. L'Union européenne reconnaît officiellement le pouvoir du second et voulait voter à l'unanimité ce mercredi une résolution appelant à la cessation des hostilités de la part des hommes du général Haftar, à un retour à la diplomatie. Sauf que, eh bien, nous dit l'agence Reuters, Emmanuel Macron, encore lui, a réussi à faire échouer ce consensus. Et voilà qui relance le débat, sous-entend Reuters, sur la politique française en Libye, sur son soutien officieux aux forces du général Haftar, ses intérêts pétroliers dans les régions de l'Est. Et au final, on en revient à ce que le journal en ligne espagnol El Confidencial décrivait il y a quelques jours comme le conflit en Libye, une guerre silencieuse entre Macron et Salvini. L'Italie et son vice-président du Conseil d'extrême droite, Matteo Salvini, soutiennent, il faut bien le dire clairement, le gouvernement libyen d'unité nationale, d'Al-Sarraj. Macron, lui, penche plutôt du côté Haftar. Chacun a ses intérêts cachés. Et au milieu, eh bien, il y a la population libyenne, bien sûr, mais il y a aussi la question des migrants en Méditerranée. La Repubblica, à Rome, nous redit sur ce sujet à quel point le sauvetage des bateaux en perdition au large de la Libye n'est quasiment plus assuré depuis quelques jours par les gardes-côtes, depuis donc que les combats se sont intensifiés à Tripoli. Hier, ces gardes-côtes ont traité un appel au secours qu'au bout de 24 heures, ce dont s'est finalement félicité Matteo Salvini, car la Libye, à nouveau en guerre, on l'a dit, reste toujours, selon Rome, mais aussi selon Bruxelles, un partenaire fiable, un pays sûr où renvoyer les migrants secourus en mer.
Merci beaucoup Camille Magnard.